Blast Mat.
Tu veux faire la balançoire?
Mmh.
Oui. Mmh. Tu grimpes?
Oui.
Tu grimpes?
Non, non.
Il faut que je t'aide. D'accord. Oui. Je t'aide.
Oui.
T'accroches? Tu te tiens à la balançoire? Tu te tiens? De l'autre côté? Allez, c'est parti!
Alors, moi j'ai voulu devenir asthmate. Je pense que j'ai eu le déclic très tôt. Parce que j'ai le souvenir d'une maman d'école d'un ami d'enfance qui était assistante maternelle. Et en fait, je la voyais faire avec ses petits, avec ses bébés. Et elle était vraiment très maternelle, très très douce, très. Enfin, elle était géniale. C'était une femme géniale avec qui d'ailleurs j'ai toujours des contacts, avec qui j'ai eu toujours une très belle relation dans ma vie. Voilà, c'est toujours une femme qui a compté pour moi. Et voilà, et je me suis toujours dit depuis toute petite, ah là là, c'est génial de pouponner comme ça, d'être entourée d'enfants, de câlins, de sourires, de rires et tout.
Donc eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier podcast intitulé donc Blablasmat où j'ai l'immense honneur d'accueillir donc une invitée que vous connaissez sans doute ou pas d'ailleurs. Donc c'est Julie alias Lily Myrtille qui a bien voulu accepter mon invitation. Donc bonjour Julie.
Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis ravie de partager sur le métier aujourd'hui.
Bah de rien. Comme je le disais il y a quelques instants, en fait, ce podcast-là, c'est qu'en fait, l'idée, c'est de, je l'espère, ça sera finalement de contrecarrer, entre guillemets, tout ce qui a pu nous tomber assez récemment sur la tête, nous, asthmates, et montrer un peu plus de positif dans notre métier et à cette occasion, faire. Différents podcasts audio de portraits de divers collègues et vous faire partager tout ça. Voilà. Donc l'idée de ce podcast-là, c'est de vous faire partager sous forme de trois parties plus ou moins, on va partir sur cette trame-là, sur avant d'être asthmate, donc cette grande période-là qui est avant d'être asthmate, la situation actuelle de l'asthmate, comment ça se passe, etc., comment tu fonctionnes, et enfin peut-être une troisième, dernière partie, en fonction des sujets qu'on va aborder, l'après. Voilà, tout ce mystère, on verra ça, comment ça se passe. Mais tout d'abord, l'avant. Quand on parle d'avant de Trasmat, comme on vient de l'écouter en préambule dans ce podcast-là, en fait, toi Julie, alors d'abord, tu es d'où toi à peu près?
Moi, je suis née à Saint-Étienne. Voilà, j'ai grandi à Saint-Étienne et j'étais à Saint-Étienne jusqu'à mes 30 ans. Donc, je suis stéphanoise, une pure stéphanoise.
D'accord.
Et là, pour l'instant, maintenant, j'ai suivi mon conjoint dans le centre de la France.
D'accord. Donc, pas forcément dans le détail, mais à peu près où tu te situes par rapport en France. Donc, tu disais, alors, je sais plus si tu le disais tout à l'heure, mais finalement, t'as un agrément pour combien de places actuellement?
Actuellement, j'ai un agrément pour 4 enfants. Donc, deux bébés et une place pour un de plus de 18 mois et une place pour de plus de 24 mois.
D'accord, donc 4 places alors.
Ouais.
Et également, comme tu le disais là auparavant, tu as déjà toi de l'expérience dans le métier déjà.
Oui, j'ai commencé à travailler avec des enfants depuis mes 19 ans.
D'accord, donc effectivement, il y a de l'expérience et de l'ancienneté déjà.
Oui, j'ai eu 32 ans, donc ça commence à... Ça y est, j'ai passé les 10 ans, ça y est, je commence à être une ancienne de la petite enfance, là. Voilà. C'est vrai.
Exactement, et du coup, en passant également, donc toi, tu as lancé, je repars un petit peu également sur le blog en même temps, ce blog-là, donc qui est Lily Myrtille, tu l'as lancé quand exactement? En même temps ou un tout petit peu
alors,
avant?
Alors, je l'ai commencé... 2014-2015, j'ai toujours eu des blogs et j'ai toujours aimé partager, être sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ce blog-là, je l'ai vraiment depuis très longtemps parce que du coup, j'ai trouvé très peu d'informations sur le métier d'assistante maternelle.
Oui.
On en trouve sur les sites du département, des conseils généraux, tout ça, mais on n'en trouve pas forcément, de blog, Et puis c'était plus trop l'époque des forums, c'était vraiment l'époque des blogs en 2015.
Ouais, c'est vrai.
Et du coup, j'avais envie de trouver des personnes avec qui partager. Et j'ai trouvé très 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 peu de monde à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas écrire mon expérience et partager avec d'autres personnes. Donc j'ai raconté tout le, j'avais mis en place un hashtag qui s'appelait le projet Asmat.
Ouais, tout à fait.
Et en fait, j'ai écrit plusieurs articles par rapport à tout ça, par rapport à ma demande, mon dossier, la réunion d'information, le projet à la maison, comment j'allais aménager mon appartement, le matériel, comment j'allais pouvoir acheter du matériel aussi, et voilà, et c'est parti de là. Et depuis 2015, je raconte aussi des choses personnelles, mais je raconte aussi, bah, surtout, je pense que je suis surtout connue dans les réseaux et via le blog sur le métier d'assistante maternelle, parce que je m'efforce de, enfin, je suis passionnée, donc j'en parle énormément sur le blog, forcément, ça, voilà, ça ressort forcément beaucoup.
Alors on va y revenir un tout petit peu justement par rapport à ces fameux articles-là qui sont super intéressants d'ailleurs, donc du coup je vous invite fortement à aller les lire, si c'est le temps, t'as un franc-parler qui est assez juste, on va dire ça.
Oui, oui, c'est vrai que j'ai exprimé vraiment mon expérience avec tout le ressenti qu'il y avait par rapport à ça, et c'est vrai que j'explique un peu toutes les démarches, mais aussi bah, les hauts et les bas, mes expériences à travers le métier d'assistante maternelle.
Sachant qu'en 2013-2014, c'était à quel moment, toi, par rapport à ta demande d'agrément? Tu l'avais déjà, ton agrément
Non, je l'ai eu en 2014. Et en fait, à cette époque-là, bah, je gardais deux petites jumelles, donc à leur domicile, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais les garder une seule année. Voilà, et en fait, donc elles sont nées en 2013, donc je devais les garder de septembre 2013 à septembre 2014.
D'accord.
Et du coup, voilà, la fin de mon contrat arrivant, et le métier d'ASMAT pouvant être réalisé aussi, parce qu'il faut aussi avoir les moyens matériels pour accueillir des enfants chez soi, hein. À ce moment-là, bah, j'ai lancé le projet. Donc, bah, après, malheureusement ou heureusement, en fait, les petites jumelles, je les ai finalement gardées jusqu'à leurs 3 ans. Donc, je suis restée au domicile des parents jusqu'en 2016.
D'accord.
Et en fait, du coup, ça a suspendu mon agrément que j'avais obtenu, du coup, finalement, sans aucun souci. Et du coup, bah, en 2016, bah, j'ai repris mon activité. Et en fait, j'ai fini le contrat avec les jumelles le 30 août 2016. Et le 2 septembre 2016, j'accueillais ma première accueillie en tant qu'ASMAT.
D'accord, donc super, ok. Et en revenant justement par rapport à cette période-là, donc c'était quoi ta vision du métier à l'époque, avant justement d'entamer ce fameux métier-là? Tu avais déjà une vision assez prédéfinie du métier? Tu avais déjà
Je pensais pas du tout que c'était aussi compliqué. Voilà, je me suis retrouvée, quand j'ai débuté, je me suis retrouvée face à un amas d'administration,
ouais,
de papiers, de choses, de calculs à comprendre. Et c'est vrai que moi, comme j'étais titulaire du CAP Petite Enfance depuis 2009,
d'accord,
avant de travailler en crèche, en fait, j'avais obtenu mon CAP Petite Enfance en candidat libre. Je me suis retrouvée, bah, sans avoir fait la formation ASMAT, et en fait tout le côté administratif, j'ai dû chercher moi-même les infos et me renseigner moi-même pour essayer de comprendre les contrats, la mensualisation, la convention collective et tout. Donc j'ai dû beaucoup travailler là-dessus, parce que c'est vrai que je me suis retrouvée plongée là-dedans. Voilà, autant accueillir les enfants voilà, m'occuper des enfants, il y avait aucun souci, mais du coup, ouais, tout cet administratif qui me tombait dessus, ça a été un peu déroutant au début, et puis je pense que ça l'est toujours autant, parce que voilà, ça change tout le temps. Donc voilà.
D'accord. Et c'est que pour le coup, effectivement, donc tu disais que ben, les fameuses difficultés, ça pourrait être ça au départ, effectivement, ces fameuses.
Bah oui, déjà que pour les parents, c'est pas facile d'employer une assistante maternelle, ouais, parce que c'est très compliqué de leur expliquer les contrats de travail et les calculs de mensualisation, tout ça.
Mmh.
Et ben quand on débute et qu'on est aussi perdu qu'eux, voilà, c'est très très dur de trouver. Je trouve qu'il n'y a pas assez de structures qui puissent nous soutenir. Par exemple, moi, j'ai travaillé clairement 6 jours sur mon premier contrat de travail.
D'accord.
Parce que je souhaitais moi le réaliser moi, mon contrat de travail, afin de mettre de comprendre déjà ce que je mettais dans le contrat, de comprendre chaque phase du contrat et pas d'imprimer un contrat, des contrats tout faits sur internet d'assistante maternelle, on en trouve partout sur internet. Mais le problème, c'est que je voulais vraiment quelque chose qui soit structuré et que je comprenne à quoi je m'engageais avec le parent. Et que le parent comprenne aussi à quoi il s'engageait avec l'assistante maternelle.
Ça me fait penser à un truc, excuse-moi,
ouais,
du coup, tu n'as pas de RAM du côté de chez toi qui pourrait
si, justement,
pu t'aider?
Justement, Justement. Et j'avais pris rendez-vous avec le relais d'assistante maternelle.
Logiquement, c'est leur rôle, donc.
Ouais, non, mais. Et en fait, la dame m'a accueillie. Alors, on a échangé sur le métier et ça se passait très, très bien. Parce que du coup, on avait la même vision de l'éducation, des enfants. Enfin, voilà, on parlait vraiment avec passion, en fait. On échangeait vraiment sur le métier avec passion. Et en fait, moi, je lui expliquais que je souhaitais faire mes contrats, comme nous sommes en droit de pouvoir les faire, afin de, voilà. Et en fait, quand je lui ai dit, j'ai fait mes contrats, donc j'avais passé beaucoup, beaucoup de temps à faire le contrat. Je pense que j'avais passé 6 jours dessus, mais vraiment beaucoup,
Pour
beaucoup
bien tout
d'heures
comprendre,
dessus de travail.
bien tout comprendre.
Voilà. Et en fait, elle m'a dit, ah, vous avez fait votre contrat pour avoir des petites fleurs dessus et mettre des autocollants Mickey?
D'accord.
Et en fait, franchement, ça a été, je pense, ma première désillusion du métier. Je me suis, mais je me suis effondrée intérieurement. Je venais la voir pour avoir de l'aide et en fait, elle s'est moquée de moi parce que
D'accord.
non, je voulais pas faire mon contrat pour mettre des petites fleurs dessus. Je m'en fiche qu'il y ait des petites fleurs, surtout sur mes contrats. Il n'y a pas de petites fleurs sur mon contrat, c'est pas du tout mon truc en plus. Enfin voilà,
D'accord.
si tu me
Attends.
connais, si on me suit dans les réseaux sociaux, voilà. Je suis pas du genre à mettre des couleurs et des petites fleurs sur mes contrats. Je préfère avoir un contrat carré et qui soit justement et ben légal, voilà, que niveau juridique ça suive. Et en fait voilà, c'était ma première grosse claque et de désillusion totale. Et voilà, et au final je n'y suis plus jamais retournée au relais assistante maternelle
Ah, mais
parce
du tout. Ah,
que
d'accord.
ah du tout.
Ah,
Du
d'accord.
tout parce que en plus donc j'étais allée voir cette dame, le relais était juste en bas de chez moi. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui est encore une chose aberrante, ça a été la deuxième désillusion, je pense, parce que j'avais très envie d'aller au relais
Bah,
pour emmener la petite fille que
ouais,
j'accueillais à
j'imagine.
l'époque et tout, voilà, qui en plus avait, c'était une petite fille qui avait 10 mois, donc qui commençait à se déplacer, ça pouvait être, voilà, c'était ma première accueillie, elle était toute seule au début, ça aurait pu être génial, mais en fait, j'ai appris que je ne dépendais pas du tout de ce RAM parce que j'étais du mauvais côté de la rue, et
Ah.
d'un numéro impair en fait, et je dépendais d'un autre RAM qui était à 30 minutes à pied de la maison.
D'accord.
Et bah comment dire que bah deuxième désillusion totale hein, en disant bah de toute façon voilà, j'ai un RAM qui est juste en bas de chez moi à 5 minutes. Je peux pas parce que je suis du mauvais côté de la rue. Mais
D'accord.
franchement, ça s'est joué à 2 numéros, quoi. Je dépends d'un autre RAM qui a 30 minutes. Alors après se déplacer, enfin voilà, en plus j'ai pas le permis de conduire, donc pas de voiture, je suis pas véhiculée. Elle est à 30 minutes pour faire des activités. Voilà, clairement, c'est pas possible. Pour moi, je voulais pas trimballer les bébés non plus pour les sortir, voilà, s'organiser, faire plus de temps de trajet que de temps d'accueil au RAM. Et voilà, ça a été la deuxième. Je pense que ça a été la deuxième
Grosse
grosse désillusion, voilà.
grosse déception.
Ouais, voilà. Le début n'a pas, franchement, enfin, là je me dis bon, quand est-ce que ça se passe bien? Mais voilà, c'est les désillusions, voilà, sont très courantes dans le métier. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on m'écrit en message, notamment sur Instagram, en me disant que les gens ont envie de faire ce métier, mais je leur dis mais faut vraiment avoir la passion, faut vraiment avoir la vocation. Parce qu'il faut vraiment, vraiment s'accrocher pour vraiment faire les choses bien et réaliser un chouette accueil et un accueil serein pour les enfants, pour les parents et pour l'assistante maternelle parce que c'est important d'être sereine dans son métier, quoi.
Alors, bah, transition toute trouvée pour le coup, parce que je vais revenir justement sur les 2-3, bah, même plus que 2-3 d'ailleurs, les articles que tu as pu faire avant d'être ASMAT pour le coup.
Oui.
Donc, tu parlais tout à l'heure du fameux donc, projet ASMAT, le retour, effectivement, il est sur, et donc dans le texte, je reprends un petit peu, hein,
Oui, vas-y.
sur ce que tu mets. Donc, il y a, je parlais de préjugés ou de, en tout cas de difficultés tout à l'heure. Toi, tu mets effectivement que dans le texte, donc j'hésitais un peu avant de me relancer dans ce projet. Il y avait du coup ben d'abord l'aspect pécunier, effectivement, où là tu te posais effectivement de grosses questions, savoir si effectivement ça valait le coup de se lancer ou pas.
Oui.
Parce qu'effectivement, il faut bien payer le loyer, comme tu dis, effectivement. Donc
C'est sûr, ouais.
c'est quelque chose d'assez. Comment dire? C'est une grosse décision à prendre pour le coup.
Et oui, et en plus, quand j'ai fait ma demande en 2014, donc j'étais en concubinage avec quelqu'un, mais le problème c'est que quand j'ai commencé en 2016, j'étais vraiment toute seule et j'avais gardé l'appartement qui était plus grand exprès pour le métier, et du coup bah je me suis vraiment lancée, mais voilà, dans la gueule du loup, voilà, c'est soit je me lançais à ce moment-là, soit je me résignais et je faisais autre chose. Mais en fait, voilà, j'ai décidé de me lancer vraiment et de prendre le risque. Alors la première année, ça a été très très compliqué parce que du coup, je n'avais que deux places à l'époque, donc j'avais un accueil pour un bébé et un enfant de plus de 2 ans.
D'accord.
Parce que j'habitais au premier étage sans ascenseur.
Ah oui.
Mais ça, voilà, comme j'avais pris l'appartement avant d'avoir vraiment concrétisé le projet Asmat, j'avais pas anticipé cette difficulté-là. Et au final, après moult péripéties, parce que voilà, au début on m'a dit c'est bon, vous pourrez avoir 2 bébés. Après on m'a dit bah non, vous n'aurez plus qu'un bébé et un enfant de 2 ans.
D'accord.
Et ben la première année, du coup, j'ai cumulé mon contrat où j'avais un seul petit bébé. Et ma place de 2 ans n'a été comblée que l'année d'après parce que je ne trouvais aucun contrat avec un enfant de plus de 2 ans.
D'accord.
Donc ça a été très compliqué. Donc je cumulais, heureusement que j'avais travaillé les années précédentes et que j'avais droit à un complément Pôle emploi. Mais parce que sinon, j'aurais vécu.
La grosse galère, quoi.
450 € par mois. Et voilà. Et c'était la première année, elle était très, très angoissante. Alors après, ça s'est arrangé, ça s'est libéré et j'avais 3 accueillis l'année suivante parce que j'avais demandé une extension en plus. Mais du coup voilà, c'était pas mal de stress au tout début. Et ouais, si on pense à l'aspect financier, voilà, c'est toujours source de stress, je pense, chez les asthmates. Voilà, c'est pour ça que quand moi je dis que on a quand même un métier précaire et que certaines asthmates me disent mais non, c'est pas précaire, regarde. On peut bien gagner notre vie, on paye pas, on a un avantage au niveau des impôts et tout. Oui, certes, mais le problème, c'est qu'on peut faire des mois où on va avoir un seul contrat et qu'on va gagner 300 €, et un autre mois où on va avoir les 4 contrats, les 4 places qui vont être pleines et se faire 2 000, 2 500 €, voire plus pour certaines. Mais on peut perdre notre emploi à n'importe quel moment.
Exactement.
On n'est pas à l'abri qu'un parent soit licencié, qu'un parent prenne un congé parental. Et voilà, en fait, voilà, c'est un peu, voilà, si, c'est pour moi, c'est une situation précaire, même si on peut arriver à très bien gagner sa vie, mais ça reste un emploi hyper fragile.
Complètement. Et effectivement, tu mettais également dans le texte que du coup, le fait que de s'engager dans ce métier-là, c'était, on engage toute la famille. Enfin, même si à l'époque, effectivement, tu dis qu'effectivement, tu étais seule, si je me trompe. Pas.
Alors, quand j'ai demandé l'agrément, j'étais en concubinage.
T'es en concubinage, pardon.
Voilà. Et alors, quand j'ai fait mon entretien, alors, c'était une assistante sociale, moi, qui est venue pour mon agrément, pour ma demande d'agrément. Voilà, elle m'a posé, d'ailleurs, ça, je l'ai su après, qu'elle n'avait pas le droit de poser des questions sur ma vie privée et sur mon conjoint de l'époque. Mais du coup, enfin, voilà, elle a tenu à savoir nos ressources mensuelles, voilà. Et je pense que c'est une mise en garde aussi. De la PMI parce qu'ils ont, je pense, beaucoup de demandes d'agrément et je pense que oui, peu de personnes sont au courant de voilà des risques financiers qui sont pris quand on se lance en tant qu'assistante maternelle. C'est pour ça que je répète et je répète qu'il faut vraiment la passion, il faut de la patience et voilà. Et quand on est en couple et qu'on a un conjoint qui derrière nous soutient, c'est vraiment l'essentiel.
Et c'est vrai que pour le coup, ça demande une véritable réflexion dans le sens où, effectivement, si tu t'engages dans ce métier, comme on vient de le dire, tu engages toute la famille dedans, effectivement. Et comme ton conjoint, lui, évidemment, fait partie intégrante de la vie, comme mon épouse aussi et mon fils, fait partie intégrante de la vie de ta vie pro, voilà.
Oui, c'est très important.
Voilà, et on en parlera tout à l'heure. Effectivement, tu as même présenté ton conjoint aux parents pour que tout le monde puisse être au courant de ce qui se passe chez toi, etc. quoi.
Oui, pour moi, c'est quelque chose... c'est être transparente et le bien-être de l'enfant avant tout. Voilà, de présenter mon conjoint, généralement, quand je fais les entretiens, il est présent. Hein, et
lors de l'entretien, il est présent aussi, c'est ça?
Oui. Après, moi, je fais les entretiens à la maison, donc s'il a à être là, voilà, il va être dans la pièce à côté, il va pas intervenir.
Ah oui, d'accord.
Mais voilà, il est chez lui, donc il rencontre les parents, il serre les mains, voilà, les premiers contacts, généralement, il est là, même s'il me laisse mener mon entretien. D'ailleurs, je lui dis bien, je lui dis, tu me laisses faire.
tu n'interviens pas.
Voilà.
D'accord.
C'est professionnel. Voilà. En plus, je suis hyper carrée, donc voilà. Mais du coup, ouais, c'est du coup lui aussi, ça lui permet de voir, de me dire, voilà, il écoute d'une certaine oreille et il voit un peu aussi d'un aspect extérieur comment les parents réagissent en fonction de ce que je dis. Et des fois, il y a les petits débriefings post-entretien.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Lui, il a son
où,
œil.
Justement, voilà, il me dit, ah, tu sais, à un moment, il a dit ça, ou voilà, ouais. Au niveau du tarif, ils ont tiqué, voilà, méfie-toi, et voilà.
Donc, de bons conseils, finalement, et avec son petit regard extérieur qui permet, du coup, ouais,
voilà,
de voir un peu
permet
plus clair.
Voilà, ça permet d'apporter, moi, pour moi, c'est vraiment un plus. Et j'ai décroché, je pense, des contrats grâce à lui aussi, parce que il est très sociable et très sympa, et puis il adore les enfants, et voilà, généralement, il peut pas s'empêcher soit d'aller jouer avec eux pendant que moi je parlais avec les parents, ou enfin voilà, c'est vraiment, moi c'est un accueil que je fais qui est professionnel de par mon expérience et mon diplôme du CAP de l'enfance et tout ça, mais je fais aussi un accueil qui reste très familial et voilà, qui est cette cette bonne ambiance là, c'est-à-dire que les enfants, bon, pour moi, ils doivent se sentir pas comme dans une crèche où voilà, ils ont accès à toutes les pièces de la maison, ils doivent se sentir chez eux. Alors bien sûr, voilà, ils doivent se sentir bien à la maison, quoi. Ils viennent chez nounou, ils viennent, ils doivent se sentir bien. Il y a leurs photos accrochées au frigo, il y a leurs photos dans leur chambre. Là, on va faire le sapin de Noël. J'ai fait les sapins de Noël avec mes accueillis. Donc voilà. C'est vraiment, je pense que quand on a son conjoint qui ne nous soutient pas totalement dans le métier, ça peut être très difficile parce qu'on a souvent des coups durs ou des retards de salaire
c'est,
ou
c'est
voilà.
Compliqué. Toi, ah oui,
toi même, tu sais. Hein,
c'est très
donc
compliqué.
C'est parfois très compliqué et, d'avoir quelqu'un sur qui compter et qui nous soutient, c'est très très important.
Et comme tu dis, effectivement, puis on s'arrêtera là pour cette première partie, effectivement, faut, comme tu mets sur, également sur un de tes articles, il faut au moins tenir un an pour voir ce que ça donne et tenir le choc et voir si du coup si ça vaut le coup de continuer ou pas. Et effectivement, et tu parlais de ton conjoint là actuellement, donc lui fait partie de ton projet d'accueil, pour le coup, il fait partie intégrante de ton projet d'accueil. Donc quand tu as un entretien, tu parles effectivement de lui, etc. Donc tout ça fait partie du projet d'accueil. Et est-ce que tu as par hasard, est-ce que tu as un projet d'accueil écrit ou tu en parles simplement de vive voix de ça?
Alors le problème, c'est que le projet d'accueil, j'en ai fait un premier projet d'accueil. Il était très complet, mais le problème, c'est que ma pratique professionnelle évolue tout le temps.
D'accord.
Évolue au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure des enfants, et surtout, je m'adapte aux enfants. Et chaque enfant est totalement différent. Et en fait, on peut pas, voilà, chaque enfant et chaque groupe d'enfants, parce que chaque groupe d'enfants, enfin, voilà, là actuellement, j'en ai trois, mais du coup, je m'adapte à mon trio. Et je fonctionne pas avec mon trio de cette année comme je pouvais fonctionner avec mon trio que j'avais là avant les vacances d'été. Mmh. Parce que c'est des âges différents, c'est des besoins différents et voilà, c'est toujours plus ou moins modulé. Après mon projet d'accueil, voilà, j'explique généralement en entretien, j'explique le rythme des journées et voilà, et clairement je présente moi l'appartement aux parents. Je présente mon conjoint et je présente aussi le chat qui est quand même un élément parfois important pour les parents.
Et pourtant c'est décrié par la PMI parce qu'effectivement faut pas de contact, ouais. Etc.
Blablabla. Moi j'ai toujours eu de la chance parce que j'ai toujours eu des puéricultrices ou des assistantes sociales ou des éducatrices qui adoraient les chats. Voilà, donc moi en plus généralement la PMI arrive, elle pose leur papier sur la table, le chat vient se coucher dessus. Donc forcément,
bien bonjour, bienvenue
c'est
moi.
Pour l'instant, voilà, pour l'instant, je touche du bois, j'ai toujours eu de la chance avec des gens qui aiment les chats. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est parfois compliqué avec certaines puéricultrices. Mais bon,
tout va pour le mieux. Tu sais, pour le coup, du coup tes premiers entretiens se sont pour le coup tous bien déroulés pour le moment, entre guillemets, les premiers, tout premiers, enfin je veux dire.
Eh ben, les tout premiers, bah oui, parce que au tout premier, ma première accueillie, bon, je peux dire son prénom parce que les parents sont devenus une amie, ma petite Blanche, bah la maman direct, en fait, je l'ai eu au téléphone et direct, bon, on s'est rencontrés après, mais direct au téléphone, elle a senti que ça allait le faire, voilà, d'instinct, voilà,
fameux,
je suis beaucoup au coup de cœur aussi.
Ouais, voilà, le fameux feeling.
Ouais, voilà, tout de suite. Et puis ensuite, pareil, j'ai pas passé, quand j'étais à l'époque, j'étais sur Saint-Étienne, j'ai passé très peu, j'ai passé deux entretiens. En fait, c'est deux entretiens, c'était les deux Blanche et Lou, ça a été les deux accueillis. Après, j'ai eu Paolo, le petit frère de Blanche. Donc, voilà, c'est toujours été des belles relations et voilà. Les entretiens, par contre, dans le centre de la France ont été plus agités là. En une année, j'ai passé énormément d'entretiens. Mais voilà, c'est les péripéties du métier, quoi.
Vous me versez de l'eau.
Oh non, pas en haut de la robe. On va être tout mouillé là.
Ça coule. Ça coule. Ouh, c'est froid. Et vous, vous vous mouillez pas? Vous mouillez que les pieds de Nounou?
Donc on repart avec écoute ta situation actuellement donc en tant qu'asthmate. Donc question très bête, très un peu idiote, mais est-ce que tu te sens épanouie oui. actuellement en tant qu'asthmate?
Alors j'ai pas entendu, va falloir recommencer.
Ah pardon. C'est pas grave.
Est-ce que... Désolée.
C'est pas grave. Est-ce que tu te sens épanouie en tant qu'asthmate à l'heure actuelle?
Alors en tant qu'asthmate, oui, pleinement. Là, mon petit trio, malgré des hauts et des bas et des soucis administratifs, là actuellement. Ouais. Actuellement, ça roule. Ça roule bien.
Bon, super.
Donc, et donc,
entre, question encore un peu idiote, mais entre ce que toi tu pensais avant d'être asthmate et actuellement, est-ce qu'il y a des choses qui ont forcément changé, en bien ou en mauvais, j'imagine?
Alors, avant, je m'imaginais vraiment mes journées parfaites. Voilà. Tout est beau, tout est rose, on s'occupe des bébés, les sourires d'enfants, voilà. Et, effectivement, il y a d'autres. Les soucis d'adultes qui te rattrapent, les salaires impayés, les papiers administratifs, les imprévus de démission, de licenciement, tout ça peut vite te rattraper. Mais c'est vrai que là j'ai une chance formidable de travailler, d'avoir des parents qui me font pleinement confiance et de travailler comme j'en ai envie. Comme les enfants ont envie et du coup de faire des journées qui sont longues et fatigantes mais très sympas.
D'accord. Parfait, c'est bien. Et du coup pour le coup, une question qui me vient à l'esprit également, c'est ton rapport à l'enfant, toi que tu as voulu commencer ce métier et là même actuellement, tu as voulu aborder ce métier de quelle manière? Est-ce que tu as, en parlant un petit peu, est-ce que tu abordes, est-ce que tu as une façon de faire particulière, est-ce que tu abordes les pédagogies alternatives par exemple ou pas du tout? Non, tu fais ça à ta sauce, de la bienveillance j'imagine aussi, forcément.
Oui, alors clairement je pense que, tout à l'heure je disais que je m'adaptais aux enfants, et en fait clairement je m'adapte tout le temps aux enfants, et en fait j'ai appris beaucoup quand j'ai travaillé en crèche. De travailler avec des éducatrices de jeunes enfants, avec des auxiliaires de puériculture, qui m'ont énormément appris d'un point de vue technique aussi, physiologique, psychologique au niveau de l'enfant. Après, j'aborde ma journée, il y a de la bienveillance, je fais quelques ateliers Montessori, mais je ne suis pas... Ouais. Moi, tous les enfants que j'ai gardés, ils n'arrivent pas à se poser pour faire des activités Montessori. C'est tous des enfants qui ont besoin énormément de bouger.
Bouger, ouais.
Et qui ne sont pas canalisés, c'est, moi, là, clairement, mes petits accueillis, pour l'instant, leur truc, c'est les promenades et danser. Donc, on écoute énormément de musique toute la journée. Et on danse tout ensemble. Je les prends dans les bras, on saute, on fait des rondes. On se défoule et c'est vraiment des fois les parents ils arrivent, je fais pas la liste, ils arrivent dans la, en fait je fais vraiment au feeling, j'ai pas un jour lundi c'est peinture, mardi c'est cuisine et tout, c'est vraiment je fais aujourd'hui il fait pas beau, je leur propose, est-ce qu'on fait un petit gâteau, aujourd'hui vous êtes plus, je vois qu'elles vont être plus calmes et peut-être plus posées pour faire de la peinture, je vais proposer un atelier peinture. Et là depuis quelques temps j'ai appris à beaucoup les écouter. Par exemple si on fait un jeu et que je vois que par exemple on se pose pour faire des duplos et que je vois que il y en a une qui va lancer les duplos, qui va avoir un besoin de lancer, on va ranger les duplos et on va partir sur un jeu de ballons, on va lancer les ballons et voilà. Et en fait, je pense que je m'adapte beaucoup à eux. Et c'est pour ça que les journées se passent bien, parce que je fais vraiment en fonction...
De leurs besoins.
En fonction de chacun, voilà. Et c'est vrai que je m'intéresse à toutes les pédagogies alternatives. La bienveillance, franchement, j'en apprends tous les jours. Et c'est pour ça que je disais que j'ai pas de projet pédagogique fixe, parce que tous les jours, j'apprends une nouvelle chose. Moi, je sais que Instagram m'a fait rencontrer des personnes qui sont... hyper intéressante, des psychologues, tout ça, qui partagent des petits textes, des petites réflexions à faire sur le développement de l'enfant. Et du coup, je me dis, effectivement, au lieu de faire ci, et ben maintenant je vais faire ça. Par exemple, avant, j'avais, voilà, si un enfant faisait une crise de colère, d'émotion qui était trop forte, à me taper, à taper les autres. Avant, j'avais tendance à lui demander de se calmer et de s'arrêter et voilà. Et en fait, maintenant, ce que je fais des câlins. Je passe ma journée à faire des câlins parce qu'en plus j'ai deux enfants de 2 ans, là, deux petites filles de 2 ans, ouais. Qui du coup c'est très difficile. Et dès que je vois qu'elles sont énervées, qu'elles sont frustrées et que voilà, alors qu'avant j'aurais dit calme-toi. Je sais que ça sert à rien en fait de leur dire calme-toi. En fait, je vais juste aller les voir. Je vais leur dire est-ce que tu as besoin d'aide ou est-ce que tu as besoin d'un câlin. Ouais. Et du coup, ben ça n'arrête pas les crises parce que les émotions à cet âge-là, elles ont forcément besoin d'être sorties, d'être exprimées. Bah, ouais, mais ans, ça là, permet de désamorcer les cris, les pleurs et mm-hmm. voilà. Et on fait un câlin et ça va mieux et tout le monde retourne jouer. Et voilà, et c'est ce voilà, je suis beaucoup là-dedans dans le respect aussi des autres parce que le soir, elle veut se faire des bisous pour se dire au revoir, des fois l'autre copine n'a pas envie de faire un bisou. Donc je pars sur écoute, elle a pas envie, tu peux lui dire au revoir avec des mots ou juste avec la main et voilà, tu respectes la petite copine qui n'a pas envie d'être touchée ou d'avoir un bisou. Et je travaille beaucoup sur ça en fait là actuellement. Parce que je te dis, ma pratique pro évolue sans cesse.
Constamment.
Évolue
ouais.
sans cesse. Voilà. De toute façon, c'est très bien de se remettre en question constamment, je pense, avec les enfants. Parce que chaque enfant est différent. Ils ne rentrent pas tous dans des cases. Et clairement, voilà, ils ont beaucoup à nous apprendre.
Et est-ce que tu arrives à. On entend beaucoup parler de ça en ce moment, notamment par rapport à mon RAM. D'ailleurs, ça, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça avec l'animatrice. Est-ce que tu arrives à, en journée à te poser et à juste à les observer et prendre des notes, par exemple?
J'essaye.
Il y a beaucoup de collègues qui n'y arrivent pas. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le faire aussi. C'est à effectivement faire ce genre de choses. Souvent, on est dans l'action, on joue avec eux, ou alors on se met en plein milieu d'un tapis, on voit ce qu'ils font autour de nous.
Ouais.
Mais si tu as tout de même à te poser, même un peu éloigné. Et à observer ce qu'ils font.
Alors j'essaye de plus en plus généralement le matin. Enfin, on a beaucoup de temps de jeu libre de toute façon.
Oui.
Essentiellement du jeu libre moi chez moi dans la journée. Après, comme je te dis, je fais de temps en temps des activités, mais c'est vraiment en fonction de leurs besoins et de l'occasion et voilà. Et moi, elles ont énormément besoin de contact en fait. Donc si je suis assise avec elles et que j'observe, donc j'arrive à avoir quelques petits temps d'observation et à les laisser dans justement. J'ai fait une story sur Instagram qui doit être en story permanente d'ailleurs dans l'onglet pédagogie sur l'importance du jeu libre. J'en ai fait un article d'ailleurs sur le blog sur l'importance de la bulle de jeu libre et c'est vrai que les observer jouer, être dans leur bulle, quand je les vois être dans leur bulle, et ben c'est génial et je me dis allez, on n'intervient pas, on regarde. Et même quand elles se disputent, et des fois qu'elles sont en conflit parce que j'ai 3 filles, donc voilà, ça déménage. Je les vois en conflit, j'essaye de ne pas intervenir tout de suite pour justement essayer d'observer comment elles vont régler le conflit. Et là, tu vois, en ce moment, elles arrivent à être en conflit pour un jouet, mais elles vont finir par soit échanger le jouet, soit finir par se faire des câlins. Et en fait, je me dis, à force de faire des câlins, ça aide, n'empêche vraiment parce que elles arrivent à mieux gérer le groupe. Enfin, le fait d'être en groupe, parce que même si c'est une petite collectivité, ça reste quand même 3-4 enfants, c'est un petit groupe, même si ça reste pas un groupe de crèche ou d'école, mais ça reste un petit groupe pour moi.
Ouais, tout à fait.
Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me poser, à les regarder, parce que soit si je suis assise, elles vont venir être sur moi pour lire une histoire, elles vont prendre un livre, vont venir me faire des câlins, ou parce que moi elles sont très 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 câlines. Mais j'essaye au maximum de leur laisser la bulle de jeu justement et de ne pas éclater cette petite bulle de jeu qui est essentielle pour eux.
Pour eux, ouais. Et en termes d'activité, donc c'est du jeu libre comme tu viens de dire, mais du coup c'est une question qui me vient comme ça aussi à l'esprit. Lorsque tu souhaites proposer une activité relativement précise par rapport à ce que tu souhaites faire, ce que tu as en tête. Donc en fait, est-ce que tu arrives à t'organiser comment tu fais? Est-ce que tu t'organises suffisamment à l'avance? Tu fais ça le jour même? Comment tu fais?
Alors, je fais des listes.
D'accord.
Tout le temps en train de faire des listes.
C'est donc ça. D'accord.
Voilà.
Voilà, si je vois une activité, par exemple sur Instagram, parce que Instagram est une grande source d'inspiration, comme Pinterest, qui me plaît, je vais la noter. Et en fait, voilà, je me dis, ce mois-ci, par exemple, ce mois-ci, là, c'est Noël. Donc, j'ai fait, j'ai acheté du matériel de Noël, j'ai acheté des peintures pailletées, j'ai acheté des peintures nacrées, j'ai acheté des gommettes qui brillent, voilà. Et voilà, je fais une liste et en fonction des envies des enfants, je pioche au mois. Et tu vois, il y a pas un jour ou une semaine, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. Je fais vraiment en fonction de mes envies à moi déjà et de mes avis et des envies des enfants.
D'accord.
Si elles sont plus en ce moment, si elles ont plus envie de faire des gommettes. Et puis de toute façon, le placard à loisirs créatifs, elles le connaissent parce qu'elles adorent ça. Et justement, tu vois, je te disais que c'est des enfants qu'elles sont beaucoup dans le mouvement. Mmh. Et elles sont pas intéressées par tout ce qui est Montessori, motricité fine et tout. Ça les intéresse pas pour l'instant. Mais par contre, tu vois, se poser et faire de la peinture, de malaxer, de se peindre les mains et tout, de dessiner, de faire des gribouillis, tout ça. Et elle m'épate, là, les deux grandes que j'ai, parce qu'elles peuvent passer 20-30 minutes à malaxer de la peinture, à toucher et voilà, ça va vraiment être leur petite bulle de création voilà. Et j'essaye justement de temporiser la journée sur il va avoir un temps histoire, il va avoir un temps jeu libre, il va avoir un temps de sortie, de promenade, c'est très important pour moi de sortir tous les jours.
Ouais.
Il va avoir un temps de mouvement pour danser, se défouler ou ballon, de motricité, et il va avoir un temps que j'essaye de faire créatif pour que l'enfant il crée, il découvre, voilà.
D'accord.
Mais c'est plus sans forcément avoir un résultat derrière, c'est plus moi je suis très patouille voilà, patouiller c'est l'essentiel quoi quand on a 2 ans. Donc
d'accord.
Voilà.
OK, parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que moi je vais te proposer diverses questions où je te dirai par exemple toi et un sujet précis en me disant et toi du coup en répondant relativement longuement ou pas, ce que tu en penses, etc. Par exemple, si je te dis ton rapport toi avec tes parents employeurs, comment ça se passe globalement?
De très bonnes relations. Et ils sont actuellement ou
actuellement? Oui, actuellement.
Un rapport de confiance.
De confiance.
Ouais, de confiance.
Alors actuellement, effectivement, et ça fait écho effectivement à un de tes articles sur ton blog où tu l'as, c'était pas actuel, enfin, c'était peut-être il y a quelques années de ça, non, par rapport, où tu parles finalement d'une fameuse démission.
Oui, c'était l'année dernière.
Bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement.
Oui.
Où tu parles finalement de, il n'y en a eu qu'une de toute façon, c'était celle-ci, où tu parles de démission, effectivement, où là tu as été obligé de démissionner.
Oui, j'étais.
Si tu souhaites en parler, évidemment.
Oui. Alors, ça a été une période, parce que il faut dire la vérité aussi, c'était une période très très douloureuse, très compliquée pour moi. J'avais perdu du poids, je dormais plus. Clairement, c'est ma santé physique et mentale qui était vraiment touchée. Voilà, parce que j'avais un bébé qui pleurait toute la journée. Mais voilà.
Alors, je te coupe, j'en passe, oui. Ça m'est arrivé aussi, c'est pour ça.
D'accord. Oui.
Et
t'as
du coup, c'est pas une démission, en fait, ça a été fait d'un commun accord.
Il y a
une rupture de contrat, c'est un peu différent, mais l'état d'esprit était le même, en fait, où c'était une grosse période très très compliquée. Et,
ouais, c'est dur, hein.
C'est pas
très
facile.
Difficile.
Tu te remets en question sans arrêt, tu te dis est-ce que ça vient de moi.
Tu te sens nul.
Exactement.
Tu te dis, oh là là. Et voilà.
Et pour moi, juste pour en finir, c'est qu'effectivement, moi, c'était pour la même chose que toi, quasiment, où c'était un enfant qui pleurait pour, entre guillemets, des raisons que moi, je ne comprenais pas, parce que, il dormait bien, il pleurait en se réveillant, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour des raisons que j'ai essayé de chercher, j'imagine un peu comme toi aussi.
Oui.
Et au final, on se dit, ça vient peut-être pas de moi. Voilà,
oui, c'est ça.
Et je sais que pour moi ça s'est terminé. En fait, on s'est dit écoutez, c'est juste qu'il était pas bien chez vous, parce qu'il n'y a pas eu de conflit ni quoi que ce soit en soi. C'est juste qu'il était pas forcément bien ici à ce moment précis, en ce moment. Sauf qu'effectivement, moi, la raison qui a fait que ça a été coupé, c'est que par rapport aux autres enfants, eux ne comprenaient plus en fait. Il s'était complètement déstabilisé par rapport à ce qui se passait. Il vivait dans les pleurs constamment,
pareil,
tous les jours,
ouais.
Et ça n'allait plus quoi. Ça n'allait plus.
Ouais, c'est des périodes horribles.
Donc, ouais, voilà, où en fait tu te remets en question, tu dis, mais est-ce que ça vient de moi? Tu te remets, ouais,
Ouais.
ça va
Et
pas,
puis
quoi.
tu vois que tu t'occupes de cet enfant qui fait que pleurer et t'es obligé de les autres mettre de
Exactement.
côté et t'as pas la même attention pour tout, et c'est horrible quoi.
Tout devient tendu, tu sens que la sieste ça vient, mais tu sens que s'il y a des pleurs pendant la sieste, t'es tendu parce que tu dis les autres ça va
Voilà.
pas
Dès
aller.
qu'il commence à pleurer, tu commences à stresser, et plus il va
Exactement.
sentir ton stress, plus il va pleurer. Donc
Exactement.
voilà, c'est horrible.
Donc voilà, on passe à autre chose. On va dire, toi et les collègues de ton secteur, comment ça va? Est-ce que tu as des bonnes relations avec elles ou eux
Je te
ou elles?
dirais inexistant.
Inexistant, d'accord.
Voilà, j'ai quelques collègues que je vois au parc, mais en fait je suis là, tu vois, c'est l'hiver, donc je ne vois plus personne au parc. Donc
Ouais, d'accord.
voilà, et pareil, là le RAM est loin et à 30 minutes à pied de la maison.
Ouais.
Voilà, en plus dans un quartier pas forcément très bien fréquenté, honnêtement, hein, voilà. Et voilà, j'ai pris la décision de ne pas aller au RAM malgré les envies d'aller faire des activités, tout ça. Hein, mais clairement, il faut se l'avouer, j'ai beau être dans une grande ville, les RAM ne sont pas forcément accessibles pour tout le monde.
Bah oui.
Et voilà, et 30 minutes pour y aller, 30 minutes pour revenir, ça fait 1 heure de transport sur la journée. Je pense que voilà, je préfère aller au parc qui est à côté de chez moi, où les enfants sont libres de courir dans la nature et voilà, et faire quelques activités à la maison, où ils voient aussi d'autres enfants au parc. Hein. Mais pour le coup, là, c'est l'hiver, je ne vois plus d'asthmates au parc. C'est, oh là
Tout le monde est
là,
rentré.
c'est, voilà. Après, on est dans un quartier qui est tout nouveau, qui est en pleine construction, plein changement. Hein. Mais il y a quand même pas mal de maisons et voilà, c'est un quartier, il y a des quartiers résidentiels autour avec pas mal de maisons et c'est vrai que j'ai du mal à voir du monde au parc. Donc
Parce que c'est vrai que, mine de rien, pardon, mine de rien, c'est qu'on parle souvent de l'isolement professionnel. Est-ce que toi, tu te sens justement, entre guillemets, un peu isolé professionnellement ou pas du tout?
Franchement, moi, comme je respecte le rythme des enfants, la journée et que je suis plutôt bien à l'aise dans mon travail et que mine de rien, j'aime bien travailler toute seule. Parce que j'ai ma liberté de gérer mes journées voilà, sans contrainte, de gérer de faire mes journées comme je veux
Ouais, parce que
et
pour le coup, excuse-moi, du coup, pour le coup, tu bossais en crèche auparavant, donc du coup, le côté crèche et retravailler toute seule, du coup, c'est quelque chose qui finalement t'a plu, finalement.
Oui, parce que je pense que c'est ce qui me correspond en fait.
D'accord.
Par rapport à ça, moi je suis très très contente d'être active sur les réseaux sociaux et que pas mal de collègues sont actifs sur les réseaux sociaux. Alors
Ouais.
pas dans le sens, moi je parle surtout de d'Instagram parce que je suis beaucoup d'Instagram sur Instagram. Je suis très peu sur Facebook parce que Facebook, le peu de groupes d'asthmates que j'ai fait, à chaque fois il y avait des histoires et c'est typiquement la mentalité que je ne veux pas voilà, je ne veux pas suivre. Et en fait voilà, sur Facebook, il y a toi que je suis, il y a le papa caribou,
Oui,
monsieur Nounou. En fait les hommes, vous êtes bien pas mal
bah.
sur
On
pas
n'est
mal
pas
sur
si nous.
Facebook.
Oh,
Et
bah
alors
oui.
sur Instagram, sur Instagram il y a plein de comptes formidables, franchement il y a des comptes formidables. Je pense
Ouais.
aux les instants de bonheur.
Ouais.
Qui travaille totalement différent de moi, mais qui du coup, enfin, qui m'a énormément apporté, justement par rapport à la bienveillance et l'accueil des enfants. Enfin voilà, elle m'a apporté plein de choses. Il y a Charlie et ses drôles de mômes aussi, qui est de la Loire comme moi et qui, enfin, originaire de la Loire comme moi et qui du coup propose plein de choses merveilleuses. Voilà, il y a les filous chez Nounou. Enfin, il y a plein
Il y a beaucoup.
d'activités et il y a plein de partages et j'échange beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le métier. Il y a la Mama Seule Tout aussi qui est absolument géniale.
Ouais.
Et voilà, il y a plein de réflexions sur le métier, sur tout ce qui se passe d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure, mais sur tout ce qui se passe, sur tout ce qui est en train de changer. Et du
Voilà.
coup, voilà, ça va parce que je me dis, bon, j'ai une bonne communauté d'assistantes maternelles, justement. Et voilà, et je pense que ça me permet aussi de sortir de mon quotidien d'asthmate où vraiment, voilà. C'est vrai que de voir, des fois, les relèves le soir, tu vois, durent longtemps avec les parents. Parce que je pense que j'ai aussi besoin de débriefer de la journée et de parler avec les parents, parler à un adulte, tu vois. Ça manque aussi dans la journée.
Tout à fait.
Voilà. Et souvent, voilà, en plus, j'ai des mamans bavardes, là, en ce moment. Mais du coup, voilà, on parle, on parle, on parle, et ça fait du bien, mine de rien, voilà. Après, c'est sûr que j'adorerais, J'adorerais avoir une ou deux collègues qui travaillent de la même façon que moi et qui soient dans mon quartier et que je puisse retrouver de temps en temps au parc et voilà, faire des goûters au parc ou faire des pique-niques. Bah, ça serait vraiment génial, mais c'est vrai que
c'est pas trop.
C'est vrai que je guette. Hein. Là, j'avais bien une collègue, mais qui malheureusement arrête le métier. Donc voilà, et voilà, et les quelques-unes que j'aperçois, je pense que ça n'accrochera pas. Donc je préfère ne pas faire de conflit. Donc.
Et moi, ça me fait penser à un sujet quand même qui me vient à l'esprit, c'est qu'effectivement ce côté réseau social, les réseaux sociaux, il y a vraiment deux écoles encore. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Il y a les collègues qui sont entre guillemets, vraiment, je mets les guillemets, qui sont de l'ancienne école, tu vois, ils sont vraiment encore à l'aspect encore papier, tu vois, ils font un papier parce qu'ils vont comprendre sur le papier. Il n'y a pas encore cet aspect, je vais sur internet pour trouver quelque chose ou pour juste communiquer.
Oui.
Ne serait-ce que les emails, quoi, tu vois.
Oui.
Et moi, je sais que dans mon secteur, il y a encore pas mal de collègues, sans trop m'avancer, qui fonctionnent toujours par papier. C'est-à-dire qu'en fait, quand le RAM fait un message, elle l'envoie également par courrier chez la SMAT. Elles ne vont pas, sur l'ordinateur, consulter leur email, leur messagerie. Et ça me fait penser que pour le coup, il y a vraiment, entre guillemets, deux écoles où il y a les plus... comment dire,
les ASMAT 2.0 et les autres.
Exactement, exactement. Et ça fait vraiment ça. Et c'est que pour le coup, on parle d'isolement professionnel, mais même pour moi, enfin, c'est pas du tout le cas, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a sur Instagram, entre autres, il y a des vrais pépites. Ça permet vraiment de voir des choses et de partager
d'échanger des choses. D'échanger, de se donner des idées, de se soutenir aussi. Moi, je sais que, justement, on parlait de la démission tout à l'heure. Quand j'ai démissionné, bon, après, je suis restée très dans le secret professionnel, hein, mais voilà, j'ai des collègues qui ont senti que j'allais pas bien, qui m'ont soutenue, qui m'ont donné leur avis, qui m'ont donné aussi des conseils, parce que j'expliquais que j'avais un bébé qui pleurait tout le temps, j'étais désemparée, je ne savais pas quoi faire. Et puis honnêtement, moi, à ce moment-là, à cette période de la démission, je n'ai trouvé aucun soutien au niveau de la PMI. J'ai contacté mon éducatrice 3 fois. Jamais elle ne m'a rappelé, jamais elle ne m'a envoyé un email, et ça a été très 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 dur, parce que le contrat, du moment où j'ai démissionné, pour les parents, j'étais devenue une mauvaise asthmate qui ne savait pas s'occuper des enfants.
Ah ouais, d'accord.
Donc voilà, j'ai eu le papa qui m'a un peu menacée, tout ça a été un peu
compliqué.
Ouais, émotionnellement, déjà que je sortais d'une période où c'était dur de gérer tout ça, alors qu'en plus on me dit que parce que je suis nulle, que c'est moi qui ne sais pas gérer les enfants en bas âge, et que voilà. Super. Alors que je gérais leur enfant 10 heures par jour et qu'il pleurait, et que à la maison ça se passait bien, parce que c'était un bébé à moins d'un an, hein, qui était sur la tablette et devant la télévision. À la maison. Et le problème, c'est que avec le recul, hein, on réfléchit. Et en fait, moi, avec le recul, les discussions que j'ai eues avec des collègues, on en a déduit que, en fait, l'enfant était carrément en manque de télévision, en manque d'écran, et que ça devenait une drogue, et qu'il était accro, et que au niveau de chez moi, s'il pleurait, c'est parce qu'il n'avait pas sa dose d'écran et d'alimentation aussi, qui était très sucrée, alors que moi je cuisine maison et bio, donc autant te dire que c'était hyper différent, et que du coup l'enfant il se retrouvait pas chez moi, il avait pas les mêmes repères.
C'était compliqué.
Donc voilà.
D'accord. Transition également un peu toute trouvée, sauf si tu souhaites vraiment pas spécialement en parler, c'est effectivement cet aspect, tout ce que tu peux rencontrer en ce moment, notamment les petits soucis même. Je dis petit, c'est pas petit souci, c'est tout ce qui est page. C'est pour ça que je parlais du RAM, effectivement, il y a quelques instants là, entre autres, du fait que tous ces problèmes qu'on rencontre actuellement, tout ce qui est page emploi, plus, etc., article 49, etc.,
oui.
Du côté de chez moi, de mon RAM, on n'en parle absolument pas.
Qu'en fait... c'est totalement aberrant. Là, la grève du 19 novembre, il y a des gens qui n'étaient pas au courant.
Ouais.
Qu'il y avait une grève, et je pense que c'est justement le grand décalage entre les ASMAT 2.0 et parce qu'on est actualisé tout le temps sur les actus, sur les changements, sur le texte là qui passait à l'Assemblée nationale, après au Sénat, qui retournait à l'Assemblée nationale. On a eu tout le temps les infos, l'info s'est relayée hyper vite, tandis que dans la vie réelle, les gens ne savaient pas pourquoi les assistants maternels faisaient grève.
Ouais,
alors que c'est quelque chose pour lequel on se bat depuis plusieurs mois déjà, Page emploi, depuis janvier, ils n'ont pas modifié nos bulletins de salaire sur les heures défiscalisées. C'est quand même aberrant parce qu'on est en décembre.
On est en mois de décembre. Régulièrement déjà.
Oui, moi j'en parle assez régulièrement. Alors ça m'a été reproché. Hein. Ça m'a été reproché. On m'a dit, franchement, Julie, tu montres le mauvais côté des assistantes maternelles.
Ah oui, d'accord.
Moi, tu me donnes plus envie de faire ce métier. Voilà, j'ai eu des messages assez virulents là-dessus en me disant, franchement, oui. Tu dégoûtes du métier. Mais
ok, pas,
voilà, j'ai envie de dire, écoutez, c'est pas, voilà, on m'a dit, essaye de te reconvertir. Mais en fait, voilà, je suis très contente de partager sur Instagram, mais en même temps, je me dis, les gens se font un jugement hyper rapidement parce que c'est pas parce qu'une assistante maternelle va être sur les réseaux et se battre pour les droits qu'on a, se battre contre plein de choses, hein, que ce soit moi, j'ai un papa en entretien avec qui j'ai eu un accro parce qu'il m'a demandé quand est-ce que je voulais tomber enceinte. Donc ouais. Voilà, moi, si vous me suivez sur les réseaux, là, je suis assez féministe, je milite pour les droits des asthmates, j'adore mon travail, je suis passionnée par mon travail. Mais alors, il faut dire la vérité aux gens, être assistante maternelle en 2019, c'est beaucoup de galères, c'est se battre tout le temps contre les administrations. Là, j'ai une amie qui a demandé son agrément, qui a déjà eu plusieurs problèmes d'abus de PMI quand elle a demandé son agrément par rapport à son logement, tout ça, parce que le référentiel national n'a pas été respecté. On lui a demandé des choses, mais totalement aberrantes. Là, elle a débuté au mois de septembre. Elle a fait un remplacement en fait d'une collègue qui partait en formation. Et du coup, c'est le conseil départemental, donc du Finistère, hein, autant dire les choses, hein, qui l'a recruté pour prendre en garde deux enfants, 50 heures par semaine. Et en fait, oui. Et en fait, elle a signé un contrat avec les parents, donc avec son tarif horaire, tout ça. Et en fait, la maman lui a dit, écoutez, de toute façon, c'est pas moi qui vous rémunère. Moi, je vous rémunérerai que les indemnités d'entretien et les repas. Et votre salaire, c'est le conseil départemental qui prend en charge. Sauf que, surprise, elle a travaillé un mois, donc 55 heures par semaine. Fin septembre, elle appelle le conseil départemental pour savoir quand est-ce qu'elle est touchée son salaire.
Ouais.
Et là, elle apprend que déjà, elle ne sera pas payée au taux horaire signé dans le contrat avec les parents, alors que les parents restent les employeurs, hein, qui a un contrat de travail, hein, mais au minimum légal. Donc voilà, t'imagines. Et en fait, et en plus, ils ont osé lui dire, donc c'était pour le mois de septembre, hein, son travail, elle a travaillé 55 heures par semaine tout le mois de septembre, et ils ont osé lui dire que madame, vous ne serez payée que fin novembre, début décembre. Et elle a reçu sa fiche de paye samedi. Ouais. Et elle a touché 422 euros pour une fratrie, donc deux enfants accueillis,
d'accord,
55 heures par semaine.
C'est charmant.
Alors si ça aussi c'est pas se moquer des asthmates et que c'est pas un combat à avoir, d'établir un contrat de travail quand même avec un parent, et que ce soit le conseil départemental qui ne respecte pas le contrat de travail et qui applique le minimum légal pour pas rémunérer plus, mais je trouve ça totalement révoltant. Et il y a tellement de choses contre lesquelles il faut se battre, en fait. Alors on est tout le temps en train de demander dans les médias, on entend tout le temps, les assistantes maternelles, elle a secoué un bébé, elle a fait ci, les assistantes maternelles, c'est des voleuses, elles ont fait ci, elles ont fait ça, elles font du mal aux enfants. Et puis en plus, on nous appelle jamais assistantes maternelles, on est toujours nounou ou nourrice. Alors moi je suis désolée, mais je donne pas le sein aux enfants que j'accueille, hein. Donc la nourrice, c'était au 19e siècle, donc au bout d'un moment faut arrêter. On a un travail, on a un qualificatif, c'est assistante maternelle, et c'est aberrant en fait, parce que on est toujours décrié dans la presse, alors que nous tout ce qu'on demande, en plus on demande plus de formation, plus d'encadrement. On aimerait, moi franchement, quand j'ai démissionné, j'aurais aimé que ma PMI vienne me voir et me soutienne, me dise on va essayer, même jouer un rôle de médiateur entre les parents. Et voilà, moi je me suis sentie complètement seule quand j'ai eu mes galères avec Page Emploi, justement, qui est toujours injoignable. Il y a des personnes sur Instagram qui m'ont dit, bon, t'es sûre, moi j'arrive toujours à les joindre. Moi je suis désolée, j'ai une facture de téléphone de fou, parce que à force de taper 1, taper 2, taper étoile, revenir au menu principal, aucun conseiller ne peut prendre votre appel. au bout d'un moment, mais ça rend complètement dingue. Et moi si ma situation page emploi, moi ce que je trouve ça dégueulasse, c'est que ma situation page emploi s'est débloquée parce que je suis assez active sur Twitter. Et sur Twitter, j'ai interpellé carrément le compte de l'URSSAF en leur disant, est-ce que vous trouvez normal que là, en fait, vu que vous avez pas fait votre travail, moi, je me retrouve à ne pas pouvoir toucher mon salaire et des parents à payer des charges patronales mais c'est une aberration, c'est une aberration. Et moi, mon dossier s'est résolu en 48 heures à partir de ce moment-là où j'ai crié sur les réseaux sociaux que avait marre, quoi. Et en fait, je me dis, mais justement, tu vois, on parlait des asthmates 2.0 et de toutes celles qui sont encore au papier, au relais, qui sont isolées et tout, qui ne savent pas, qui sont seules, en fait, qui sont encore plus seules. Moi, en fait, je me dis, j'ai la chance de pouvoir utiliser Internet, de pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Je me dis, l'asthmate qui est toute seule et qui ne sait pas les choses, qui n'est pas au courant de tout ça, qui page emploi n'arrive pas, il y a de quoi déprimer, mais totalement. Et ma collègue avec qui je m'entendais bien là dans le quartier, qui arrête le métier, elle arrête en partie pour ça parce que elle est complètement dégoûtée et complètement d'être seule, d'être pas soutenue, d'avoir aucune reconnaissance des parents. Enfin, c'est très difficile parce qu'il y a énormément de parents qui pensent que du principe du moment qu'on est payé, on doit se taire et obéir. Sauf que ça marche pas malheureusement comme ça, quoi.
Et c'est vrai que malheureusement, comme dit, effectivement, être asthmate en 2019, c'est déjà même sans être en 2019, faut se battre sans arrêt, comme tu dis, effectivement. Moi, je trouve même qu'il y a on a un statut d'auto-entrepreneur, en fait. Faut tout le temps se battre, faut chercher sans arrêt. Les infos, faut les chercher. Sinon, comme tu dis, t'es largué et tu sais pas ce qui se passe. D'où l'intérêt, je pense, effectivement, comme tu dis, de maintenant, de se connecter, parce que, entre guillemets, les infos, elles ne viennent pas toutes seules, effectivement. Mais sur 2019, toutes les merdes, entre guillemets, qu'on a pu avoir, le page emploi, l'article 49, l'assurance chômage, on parle de la PMI également, les nouvelles missions qui vont être, la réorganisation qui est en train de se faire par rapport à la PMI. Il y a tout un tas de trucs qui est en train de bouger par rapport à notre métier et on a intérêt à se mettre au courant de tout ça parce que ça bouge énormément.
Oui, et de se soutenir et de faire passer l'info et voilà. Et malheureusement, on est seul. Franchement, on nous en demande toujours plus, en fait. On nous demande toujours de faire plus d'efforts, d'être plus formés, que notre logement soit encore plus aux normes, d'accueillir. Et en fait, on veut bien. Moi, je veux bien être beaucoup plus professionnelle et être beaucoup plus cadrée. Et voilà, sauf que il faut nous en donner les moyens et avoir une structure qui nous soutienne, quoi. Parce que ce soit la PMI ou le RAM ou Page Emploi, il y a aucun des trois là qui nous soutient. Il y a des asthmates qui ont la chance d'avoir une puéricultrice qui les suit et qui les soutient, mais c'est très rare. Moi, honnêtement, quand je l'ai vu pour mon renouvellement au mois de juin, je lui ai parlé de ma démission, je lui ai dit écoutez, je vous ai écrit, ça a été compliqué. Elle m'a dit écoutez, je vois que vous tenez la route, j'ai énormément de dossiers à gérer, j'ai pas pu gérer le vôtre, quoi.
Ouais, elle a pas le temps.
Voilà, mais en fait c'est pas parce que je tiens la route et que je travaille et voilà que j'ai pas besoin parfois d'avoir du soutien, quoi. Donc c'est aberrant, et surtout que dès qu'il y a un souci, on va perdre notre agrément sans forcément être écouté au niveau de la PMI, parce que il y a tellement de dossiers de l'assistante maternelle pour une seule personne de la PMI qui nous gère. Et forcément, les gens ne nous connaissent pas, ils ne savent pas notre façon de travailler, et dès qu'il y a une suspicion, c'est les asthmates qui en payent les pots cassés, quoi.
Tout à fait. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être un petit peu dans le collimateur en ce moment du gouvernement, quoi, un peu. Il n'y a pas que nous, évidemment, mais c'est vrai que 2019 est bien chargé en merdouille, comme ça, entre guillemets, quoi. C'est vrai qu'on est vraiment bien plombé.
Bah, malheureusement, c'est effrayant. C'est effrayant ce qui est en train de se préparer, et tout, soi-disant que fait pour les familles, pour aider les familles et aider les enfants, mais au final c'est pas aidé, parce que la qualité d'accueil va forcément être dégradée par tout ce qu'ils veulent mettre en place, et voilà.
Et malgré tout, faut qu'on soit effectivement pro sur différents aspects, notamment sur l'accueil qui ne doit pas changer. Donc lui, ça restera le même, mais tout ce qui est en arrière-plan et qui se fait après la journée de travail, ça on l'oublie trop.
Mais tellement.
la journée se termine, nous c'est pas terminé après quoi.
Voilà, donc, et puis là c'est dimanche, bah moi j'ai fait mon ménage, je vais préparer mes purées et mes compotes voilà. pour la semaine, regarder, faire un tour sur Instagram et Pinterest pour faire ma petite liste d'activités, préparer les activités, ranger la salle de jeu, préparer, bah là j'ai fait aussi ce vendredi soir, j'ai passé du temps pour valider les feuilles de présence et les fiches de paye et envoyer aux parents parce qu'on est à la fin du mois. Là, on est le premier, j'attends mes salaires et puis on verra quand est-ce que je les aurai aussi, quoi.
C'est
voilà.
ça.
Et je peux m'espérer, voilà. Là, le 29 novembre, j'ai publié sur Instagram, youpi, nous sommes le 29 novembre, j'ai enfin tous mes salaires
ouais.
du mois d'octobre.
Bah oui, oui, oui.
C'est quand même,
c'est
voilà,
dingue, hein.
ça résume, voilà, on se réjouit d'un truc qui devrait être totalement normal, en fait.
Mais c'est vrai que c'est clairement un métier où tu, où si tu le fais, entre guillemets, encore une fois, professionnellement, c'est un métier où tu pourrais y passer des jours et des jours, même ta vie entière, à ne penser qu'à
c'est
ça.
C'est ça. Et c'est aussi très important de savoir savoir couper. Moi, c'est souvent là mes dernières vacances, notamment sur Instagram, parce que sur Instagram, on commence à être assez assez nombreux, parce que j'ai 6 700 personnes, donc presque 7 000 personnes, donc c'est énorme. Et il y a beaucoup d'assistantes maternelles qui me posent souvent des questions, voilà, le soir et ouais. le soir,
et
le week-end, voilà.
Et comment tu fais?
Comment je fais? Et ben clairement là pour les vacances, j'avais mis un message comme quoi je ne répondrais à rien concernant le métier jusqu'à ma reprise du travail. Voilà, j'ai même eu des demandes cet été, j'ai fait pareil parce que j'ai eu des demandes d'interview pour des sites internet et tout
ouais.
et ben je les ai refusées parce que j'ai dit écoutez non, je suis en congé donc non, il y aura pas d'interview, voilà. C'est
bon.
T'es un privilégié, t'as vu?
Je te remercie.
Non mais voilà, c'est important parce que je pense que si justement on n'apprend pas à faire la part des choses et à couper et à essayer de pas se stresser, parce que si on se stresse pour le moins de petits soucis dans le boulot d'Asmat, je pense que on dort plus en fait.
Ah oui, c'est clair,
voilà.
Oui, très clairement.
Donc c'est très important de pouvoir faire la coupure et vraiment de voilà de savourer les moments où justement on peut se consacrer à sa vie personnelle. Où on peut s'évader au niveau de la tête et voilà, s'aérer, tout ça. C'est je pense que c'est essentiel. Et oui, on parlait des conjoints et de la famille tout à l'heure, mais c'est l'essentiel d'avoir des proches qui nous soutiennent dans notre métier. Parce que moi, clairement, je ne me vois pas faire ma vie avec un conjoint qui n'accepterait pas mon métier.
Bah, c'est
compliqué,
ce
serait
ouais,
beaucoup,
c'est
beaucoup, beaucoup trop compliqué. Et quand on a les enfants 10 à 12 heures par jour à la maison, et ben forcément, ça déborde sur la vie perso, quoi.
Alors justement, on va parler un petit peu maintenant de, avant de couper pour la dernière, troisième et dernière partie. C'est en dehors de ce métier-là, finalement, qu'est-ce que tu fais d'autre? C'est quoi tes passions?
Alors, bah moi j'aime beaucoup cuisiner. Donc cuisiner, ça me permet aussi de le soir, j'aime beaucoup parce que du coup ça me vide la tête complètement.
De cuisiner, ouais.
Voilà. Et vraiment cuisiner, moi je suis quelqu'un qui cuisine au feeling. Je ne suis aucune recette. Je pioche ce que j'ai dans le frigo et voilà. Ça m'aide beaucoup. Je pense que c'est assez la cuisine, c'est quand même quelque chose d'assez créatif et voilà, et ça me fait énormément de bien. Je fais pas mal de photos aussi. J'aime beaucoup prendre des photos. Je m'intéresse beaucoup à la déco aussi. Donc voilà, là d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, je devais relooker les meubles de poupées de la
Mais
salle de
ça.
Jeu.
Ouais.
Donc voilà. Après, j'aime beaucoup le shopping et la mode, surtout depuis cette année. Hein. Voilà, ça me fait du bien et je pense aussi à moi. Je peux du coup, voilà, je me fais plaisir. Je pense à moi aussi le week-end et ouais, beaucoup écrire, bloguer, tout ça, ça me prend aussi beaucoup de temps. Voilà, c'est des choses que j'aime donc voilà. Et malheureusement, je suis triste parce que comme je travaille beaucoup, j'ai beaucoup moins de temps le soir pour me poser et écrire sur mon blog et ça me manque mais énormément parce que j'aurais tellement envie de faire encore plus de partage. Mais malheureusement, moi, enfin voilà, il y a aussi le corps qui ne suit pas forcément, surtout après une journée de 11 heures de travail.
C'est dur. Hein.
Donc voilà. Mais ça me fait beaucoup de bien d'écrire aussi. Donc quand je peux le faire, je le fais. Et puis voilà.
Bon. Parce que du coup, en termes de, ça me vient comme ça également, un petit peu à l'esprit. Mais en termes de ton lectorat sur Instagram, en fait, les gens qui sont abonnés à ton compte sont pour toi, ton avis, plus attiré par le côté pro ou plus par le côté également un peu mode, à ton avis, t'as une petite idée de ça ou pas du tout?
Je pense qu'il y a les deux. Alors, c'est essentiellement féminin. clairement. Il y a beaucoup d'asthmates qui me suivent pour le métier, mais j'ai beaucoup de personnes qui me suivent par rapport à tout ce qui est body positive, confiance en soi, mode de grande taille. J'échange beaucoup. C'est vraiment les deux sujets en fait. Et des fois, c'est dur de balancer, enfin de contrebalancer les deux choses. Parce que des fois, je me dis bon, mon compte, il y a plein de gens qui me suivent pour le côté professionnel, mais en même temps, je parle de trucs personnels. Tu vois, je me suis déjà posé la question s'il fallait pas que je sépare les choses. Mais en fait, je me dis que quand même, le métier, il fait partie de moi pleinement, vu que c'est une passion. Donc je me dis pourquoi le séparer, parce que je suis comme je suis et voilà, ça fait un ensemble quoi. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes, beaucoup de mamans, je pense que je peux avoir autant de questions sur le métier d'asthmate en messagerie privée que de questions sur le rapport au corps, sur le poids, etc.
Ça te prend beaucoup de temps du coup lorsque tu reçois des messages comme ça, tu disais effectivement t'as beaucoup moins de temps pour faire ce genre de choses, mais ça te prend quand même du temps ce genre de choses, le temps de répondre aux messages, ce genre de...
Oui, ça me prend du temps, mais généralement j'échange, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est très très bienveillante. J'ai rarement de personnes, sur l'année je dois avoir 2-3 personnes qui vraiment m'ont agacé et que j'ai bloqué, hein. Parce que y a des gens qui se sont fait passer pour mes parents employeurs en me disant oh là là, vous dites des choses sur les asthmates. Oui, mais il y a des gens qui sont complètement fous sur internet. Hein.
D'accord.
On se voit ce soir pour en discuter. Mais en fait, je savais que c'était pas un parent employeur parce que j'ai des très bonnes relations. Mais il y a des gens comme ça, les gens là où que je dégoûte du métier d'asthmate. Donc moi je cherche pas non plus à épiloguer. Si ce que je dis ça te plaît pas, tu arrêtes de me suivre et puis voilà. Et après voilà, c'est vrai que le reste du temps, franchement, c'est des métiers. J'ai beaucoup de messages de remerciement de gens qui beaucoup de mamans aussi qui m'écrivent et qui me disent ah là là, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir une asthmate comme toi. Et c'est des trucs qui font plaisir et c'est pour ça que je continue et que je continue d'échanger et que voilà, moi c'est vrai que je suis sur Instagram beaucoup pour l'échange. Et ça me plaît énormément. Donc c'est très chouette et j'ai la chance de pouvoir faire justement via le blog de très belles rencontres. Parce que l'année dernière, j'ai fait les Influence, donc qui est un événement de blog qui est beaucoup plus axé influenceur actuellement, donc c'est pas du tout.
Tu as été invité plusieurs fois peut-être, non, déjà ?
J'étais invité une fois l'année dernière. Je me suis inscrite une fois, c'est par cet événement que j'ai rencontré les pros de la petite enfance.
D'accord.
Voilà, notamment Catherine Lelièvre, avec qui j'ai échangé super longtemps sur le métier de la petite enfance. Okay. Parce que personne, honnêtement, les influenceurs, il y a quasiment personne qui s'arrêtait à leur stand parce que, il n'y avait pas de partenariat à faire, bref, et du coup j'ai échangé, rencontré Catherine et son équipe et c'était super intéressant parce qu'elle a vu, enfin elle a dit waouh, c'est génial et il y a eu un échange super. Et là, Catherine Lelièvre d'ailleurs qui du coup gère le site Les Pros de la Petite Enfance avec son équipe, dès que j'ai un truc, généralement un texte de revendication, je lui envoie par mail, elle me dit d'accord. Ok, c'est bon, et elle valide, et généralement elle valide mon article rapidement quoi. Et généralement c'est des articles où je râle. Non, où je milite, on va dire. Voilà.
Ouais. Et c'est un truc assez récent ça, parce que on t'a lu quoi, une ou deux fois déjà sur le... Non, ça fait plus que ça.
Trois fois.
D'accord.
Ouais, je vous propose pas tous les articles, mais quand c'est des messages à faire passer, il y a eu le premier qui a eu beaucoup de succès, beaucoup de partage, c'était le papa qui m'a demandé quand est-ce que je comptais être enceinte.
Ouais.
J'avais fait un article là-dessus qui avait beaucoup marché. J'ai fait un article sur Page Emploi qui a beaucoup marché aussi, qui s'appelle toujours Page Emploi m'a tué.
Ouais.
Voilà, et j'en ai fait un troisième sur la grève, ou le fameux tract que j'ai fait pour la grève du 19 novembre. D'accord. Et qui du coup ça a été diffusé sur le site des pros de la petite enfance et qui a eu en 48 heures il y avait 1000 partages sur Facebook.
D'accord.
Donc généralement c'est des articles qui sont bien partagés et c'est vrai que moi je suis très peu présente sur Facebook. J'ai une page Facebook Lily Myrtille Blog, mais voilà.
Ok. Si, une dernière question qui me vient à l'esprit. Pourquoi Lily Myrtille? Alors, Lily, on voit très bien, ça, il n'y a pas de souci. Mais les myrtilles, est-ce qu'il y a une raison particulière ou pas?
Non, pas du tout. C'est bah j'aime bien les myrtilles,
Non.
mais en fait voilà le L, le I dans Lily, il y a un I et un
Ah,
Y,
ok,
et du
d'accord.
coup bah je cherchais quelque chose un peu comme ça et je me suis
D'accord.
trou enfin j'ai trouvé que c'était à la fois féminin et rigolo petite enfance, donc voilà, ça pourrait presque être un personnage de d'album.
Hérissons toutes hérissées, montre-moi le bout du nez. Hérissons toutes hérissées, n'a pas voulu le montrer. A roulé sa boule, roule, 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 m'a claqué la porte au nez. Hérissons toutes hérissées. Bravo! Vous chantez le grand cerf? Non, pas le grand cerf. Qu'est-ce qu'on chante?
Donc on revient avec cette troisième et dernière partie avec donc toujours Julie et là on va aborder plus l'aspect bon on n'y est pas encore hein, t'as encore du temps devant toi mais sur l'aspect où il y aura donc l'après Asmat et notamment cette fameuse question auquel moi je me pose et c'est une question pour laquelle enfin auquel j'ai déjà posé auprès de mes collègues masculins c'est comment te vois-tu dans 5-10 ans par exemple tu te vois comment?
Alors, bah, moi, je me vois toujours assistante maternelle.
Ouais.
Je me vois dans une maison, parce qu'actuellement, on est en appartement et on aimerait bien acheter une maison.
Ouais.
Voilà, une maison avec un jardin. si c'est possible, j'aimerais vraiment un truc que la nature soit un peu très présente dans la vie des enfants. Parce que pour moi, c'est
D'accord.
quelque chose d'important, l'écologie, tout ça. Alors, je ne suis absolument pas parfaite, absolument pas zéro déchet, et voilà. Mais voilà, pour moi, c'est important de sensibiliser les enfants au respect de la nature, à la pollution, au respect des animaux. Et voilà, j'aimerais beaucoup avoir des animaux. Donc après, avoir dans 5 ans ce qui sera possible de faire avec la PMI ou pas, hein.
Et tu sais qu'en passant
Voilà.
comme ça, tu sais qu'il y a justement, bah ça tombe très bien que tu en parles. Moi, j'ai vu récemment me renseigner là-dessus, parce qu'effectivement, notamment sur le catalogue IPA, tu remarqueras qu'en fait, il y a beaucoup de formations qui sont très bien d'ailleurs. Généralement, elles sont toutes très bien, sauf qu'il n'y a aucune formation qui est en rapport avec la nature. Et
Ah
moi,
oui?
je m'étais, non, non,
C'est fou.
et je m'étais renseigné en me disant, mais c'est étonnant quand même que vous proposiez des tas de trucs, mais pas de rapprochement pour la nature. Comment proposer des activités lorsque les enfants sortent, ce genre de choses. Et pour info, je dis ça comme ça, mais il y a une association qui est très très bien, et je me suis renseigné, je vais certainement la faire en 2020. C'est l'association qui s'appelle Autour du Feu, où là,
Oui.
en fait, tu peux être, entre guillemets, c'est l'intitulé de la formation, c'est être passeur de nature. Où là,
D'accord.
alors c'est du privé, donc il y a de l'argent derrière, donc c'est un certain coût, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de la faire. Où là, tu peux être donc passeur de nature, et là, véritablement, proposer au quotidien ou le plus possible des choses à faire lorsque tu sors, lorsque ben, les saisons passent, l'automne, avec les feuilles, ce genre de choses, et proposer des choses concrètes auprès des enfants. Et
D'accord, c'est génial.
c'est quelque chose qui est très bien, je pense.
Ouais, mais moi j'ai la chance là d'avoir un grand parc à côté de la maison, mais c'est un nouveau parc, donc c'est respectueux de la biodiversité. Et en fait, comme c'est un nouveau quartier, avant c'était tous des anciens vergers, et du coup bah ils ont conservé justement bah tous les arbres fruitiers, et c'est génial parce que tu vois l'été on a des cerises, là en septembre on avait les poires, et voilà, il y a une mare, il y a des canards, et en fonction des saisons le parc change, et voilà, il y a une petite forêt, etc., etc., et c'est vraiment un poumon vert, et c'est pour ça que je te disais que l'importance des sorties, c'était très important pour moi, parce que, bah, justement, prendre l'air dans cette petite bulle, de nature, alors qu'on habite en pleine ville, bah, c'est vraiment génial, et pour moi, c'est hyper important, voilà, c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai demandé aux mamans et aux papas de prévoir des bottes, tu vois, de pluie,
Ouais, bah
pour qu'on
oui.
puisse bah, aller patrouiller justement dans la boue
Bah il faut,
et
hein.
aller voilà se salir quoi, enfin, porter des vêtements qu'on puisse salir quoi.
C'est clair. Donc tu te verrais, tu m'as dit, donc dans
Ouais.
5-10 ans, toujours à Smat, mais est-ce que tu te verrais dans une MAM, par exemple? Ou pas?
J'ai eu le projet.
J'ai eu le projet. À l'époque où j'étais à Saint-Etienne, j'ai des collègues qui m'avaient recruté pour faire partie de leur MAM.
D'accord.
Et je pense vraiment que, enfin, j'avais tellement accroché avec ces deux dames que j'aurais pu me lancer dans l'aventure, en fait, clairement.
D'accord.
Mais ça ne s'est pas fait parce que mon conjoint est fonctionnaire et on a été amené à changer de région.
À bouger.
Bah oui, voilà. D'accord. Et je savais qu'on allait changer de région, donc je ne me suis pas engagée avec elle. Hein. Voilà. Mais je suis. C'est marrant parce que au final, la MAM a eu du retard dans les travaux et je suis d'ailleurs leur installation là qui a été toute récente. Ça d'accord. fait un mois qu'elles sont ouvertes. Et du coup, je les suis sur Instagram pour voir, voilà. D'ailleurs, je suis aussi beaucoup de mâmes sur Instagram parce que je trouve que c'est intéressant de travailler. Alors, est-ce que je me vois en mâme? Je ne sais pas. Franchement, c'est vraiment une question, je ne sais pas parce que, en même temps, je pense, niveau personnel, j'espère avoir la chance d'être maman dans 5 ans. Et je pense qu'à ce moment-là, ma façon de travailler va forcément évoluer. Parce que ça sera différent, ça sera pas pareil parce que je pense que j'aurai pas la même ressenti, la même expérience, j'aurai ma vie vraiment une fille, plus une vie de couple mais une vie de famille. Et à ce moment-là, je ne sais pas, est-ce que j'aurai toujours cette envie de travailler à la maison et de mélanger le perso avec le pro, ou est-ce que j'aurai la chance de rencontrer des collègues avec qui on aurait un projet, je ne sais pas.
D'accord. Et enfin,
c'est flou.
À creuser peut-être.
Oui, à voir. Après, comme je te dis, tu vois, j'ai commencé en tant qu'animatrice. Après, j'ai travaillé en crèche. Après, j'ai travaillé au domicile des parents. Après, là, je suis à SMAT. Donc, oui, effectivement, je peux évoluer, même si je suis très bien pour l'instant là. Je suis très contente, Mais tu vois, déjà par rapport à l'année dernière, j'ai fait des choix au niveau de mes contrats. J'ai fait des choix par rapport à ma vie personnelle. L'année dernière, je travaillais de 7h à 19h.
Ouais.
Là, j'ai fait le choix de diminuer un peu les heures au niveau des contrats. Je ne veux plus finir à 19h. Parce que clairement, j'avais trop de fatigue, d'épuisement. Et c'est des choix que je fais. Et je pense que ça évolue vraiment au fil des expériences. Et des expériences, que ce soit professionnelles ou perso. Hein.
C'est
donc on peut, c'est pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'espère vraiment être toujours à SMAT, quoi. Mais je me vois pas exercer une autre profession, à moins que je gagne au loto et que si je gagne au loto, si je gagne au loto, oui, par contre, j'ouvre un café par an, mais je me fais vraiment plaisir, quoi, avec des salles de motricité, un coin bibliothèque, un coin art créatif et tout. Voilà, vraiment, si je gagne au loto, mais ça serait trop bien. Accueillir des enfants avec leurs parents, faire des ateliers, proposer des activités, etc., etc. Et en même temps, faire la cuisine, faire des bonnes recettes, faire découvrir d'autres choses, Ça, vraiment, ce serait mon rêve, tu vois.
D'accord.
Ce serait vraiment, je pense que, ce serait l'épanouissement personnel et professionnel au maximum, quoi. Et c'est vraiment, mais vraiment, faudrait gagner au loto et être sûr de pas attendre de salaire, parce que ouvrir son propre café, c'est quand même des sacrées contraintes financières et tout. Donc je pense que aussi, il faut avoir le courage aussi de se lancer.
C'est
et tout.
Clair.
Donc, c'est vraiment si je gagne au loto, tu vois.
Après, c'est que les chemins de vie sont différents, donc à voir.
Ouais.
À voir.
Peut-être enfin, que je vais commencer par jouer au loto déjà. Ça.
En 2020,
ça serait bien, je pense.
C'est
voilà.
Ça. Et enfin, pour terminer,
vas-y.
Pour ne pas finir trop triste ce podcast, on va dire, comment toi, justement, on va reparler justement de vision du métier. Quelle est ta vision, à ton avis, toi, du métier dans quelques années? Comment tu vois ton métier d'ici quelques années, de manière générale, de manière globale?
Alors, j'espère que on le verra plus professionnel. Qu'on arrêtera de nous considérer, la presse arrêtera de nous appeler tata ou nourrice, ça serait bien, et que on soit considéré vraiment comme une profession à part entière, et que notre professionnalisme soit reconnu. Voilà. Et c'est, par exemple, tu vois, on parlait du site Les Pros de la Petite Enfance tout à l'heure. Et en fait, tu vois, ce que j'aime dans ce site, c'est qu'il mélange les assistantes maternelles avec les éducateurs, avec les crèches, avec les mâmes Et il y a vraiment un mélange de tout le rassemblement des professionnels de la petite enfance. Et ça fait tellement du bien de voir, de nous voir en fait dans cette catégorie-là,
on est pas
pro de la petite enfance. Voilà, parce que je pense que les gens ont vraiment une mauvaise image, enfin voilà, une image qui n'est pas actuelle en fait de la SMAT, enfin en tout cas de la tante maternelle que je suis, hein. Voilà, et que voilà mes collègues que j'aime suivre, voilà, on est moderne, on est content d'être, d'apprendre plein de choses, de faire plein de choses pour les enfants, d'être formé, et voilà, et je trouve que c'est, j'aimerais vraiment que ce soit quelque chose qui soit vraiment reconnu dans les années à venir.
Bon. Eh bien, je te remercie, on croise les doigts en tout cas pour que tout ça puisse se réaliser en tout cas, et on ne sait jamais, hein. De toute façon, avec le temps fera qu'on verra tout ça, mais pour le temps, pour le coup, on verra effectivement si ça va évoluer d'ici là, ne serait-ce que l'année prochaine déjà, quoi, on verra.
Oui, c'est sûr.
Donc merci à toi en tout cas Julie, et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.
Merci à toi de m'avoir accueilli pour premier podcast.
Bah de rien, j'espère qu'il y en aura d'autres en tout cas, et on se donne rendez-vous. N'oubliez pas que Julie, on peut la retrouver effectivement d'abord sur Instagram et également sur Facebook, du coup un peu moins, mais également sur Facebook visiblement.
Oui.
Voilà, et donc bah, vous pouvez vous abonner auprès des comptes auprès de Lily Myrtille, et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast avec une autre invitée en tout cas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt tout simplement.
Voilà, à bientôt. Voilà.